Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Coucou tout le monde et bienvenue sur indestar.fr, sur toutes les applis d'écoute en ligne. Nous sommes le lundi soir ou peut-être un autre jour si vous écoutez cette émission en différé, en podcast, hein, sur toutes les applis internet. Et ce soir, nous parlons comme chaque semaine d'aventure automobile, ce qui s'est passé autour de la voiture et comment l'homme a construit la voiture et est devenu son engin favori. Avec toi, Teddy, bonsoir.
Bonsoir Théo, ouais, effectivement, je suis de retour pour construire des voitures. Ah non, je ne construis pas de voiture aujourd'hui.
Ah, on construit pas.
Si, j'ai construit un château fort.
Hein?
Ouais.
Dans un jeu vidéo?
Non, non.
En vrai? T'as construit un château pour ton enfant?
En plastique.
Ah oui, ouais. je disais qu'il y avait une question d'échelle qui rentrait
le,
en...
Le seul véhicule qu'ils avaient, c'était... Alors, des dragons, bon, c'est pas vraiment un véhicule, hein. C'est bio, mais voilà.
C'est bien, d'ailleurs.
Ils avaient une catapulte, hein.
Ok.
Voilà. J'ai construit une petite catapulte.
Et c'est dans quel type de construction, ça? C'est un Lego?
C'est un Playmobil.
C'est un Playmobil. Ouais, un voilà. Classique. Antoine, t'as construit des Playmobil ce week-end ou t'as fait autre chose avec ta voiture?
Moi, j'ai beaucoup roulé.
Ah bah ça c'est bien,
ouais.
c'est totalement starter.
Surtout dimanche.
Ouais, t'as été en périple en week-end.
Je suis parti à 5h du matin,
ouais.
Direction Romorantin.
Alors ça va pas parler à ceux qui nous écoutent de Marseille, mais...
Si je me trompe pas, c'est dans le 41.
Oui, mais personne
connaît Centre-Val de Loire.
Si vous connaissez, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, bah c'est là.
Voilà.
Voilà.
Oui, puis de toute manière, tout le monde s'en fout de Romorantin.
C'est vrai.
Hop là.
Sauf si vous habitez Romorantin, évidemment vous embrasse les Romorantinais.
Donc 2 heures de route pour faire de l'air soft.
Ah ok.
Dans une association qui était super sympa par contre.
D'accord.
Bien accueilli et tout. Puis sauf que le problème, après il y a le retour.
Et te lever à 5h du matin pour faire du sport, non, non.
Oui, oui.
C'est pas du sport.
Si, c'est du sport.
C'est de l'amusement.
Oui, mais enfin, c'est de l'amusement sportif, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Et c'est après pour fin de journée pour dire bah non, faut rentrer.
Ah bah oui, c'est le principe.
Mais, que j'ai fait...
mais bon, au moins t'as roulé en Laguna, quel voilà. Plaisir de rouler en
ouais,
Laguna.
4 heures.
Ouais, n'est-ce pas? Moi, c'est vrai que c'est une voiture confortable quelque
oui.
Part.
Si, ce week-end j'ai été aussi faire du shopping pour ma voiture.
Du shopping.
Bah oui.
Qu'est-ce que t'as shoppingé?
Je me suis acheté des essuie-glaces.
Waouh.
Parce qu'il fallait que je change
les essuie-glaces. Ouais, il y avait plus d'essuie-glaces sur la voiture.
Ouais, ça marchait pas très bien.
Ouais.
Et j'ai acheté aussi un booster pour batterie.
Ah,
comme ça,
parce
si
que tu tombes souvent en panne de batterie.
Je sais pas, ça, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent. Donc ouais.
Ouais, donc là, bah oui, ça te permet de la démarrer au cas où. T'as déjà, ouais. Il me semble que t'as déjà les câbles.
Ouais, j'avais déjà les pins.
Mais le problème des câbles, c'est qu'il faut avoir un copain à côté qui puisse te mettre les
ouais,
câbles.
Avec une voiture que. Alors, petit coup de gueule là-dessus d'ailleurs, les pins. Souvent sur les nouvelles bagnoles, les cosses de batterie,
ouais.
C'est plus vraiment à l'ancienne en fait. Enfin, ce qui est logique en soi. C'est plus un plus et un moins. T'as souvent un plus, mais ouais. Pas de moins.
Bah, il est où le moins?
Tu peux le brancher à peu près n'importe où sur le moteur.
Ah, bah oui, remarque, quelque part c'est la masse donc.
Ouais.
Oui, on peut le brancher n'importe où, mais.
Mais je. C'est perturbant.
D'accord.
Parce que je cherchais sur un C4 la dernière fois où
une
ça se branchait.
C4.
Ouais. Une merde.
Ouais.
Voilà. Et putain, j'ai pas cherché. Enfin, j'ai pas
y
trouvé.
Pas.
Ouais, donc du coup, j'ai branché ça. Tiens, sur une durite.
Alors non, faut que ça soit en tôle quand même, ouais. Dans le principe. Moi, il m'est arrivé de mes aventures, non pas ce week-end, mais aujourd'hui. J'étais tranquillement sur la route ce midi en rentrant chez moi après le travail et je constate, en étant au téléphone avec toi Teddy hein, d'ailleurs,
oui,
je constate que ma direction ne part pas droit. Donc je m'arrête, regardez là, qu'est-ce que je te dis? Je te dis j'ai
crevé,
voilà. Alors heureusement j'ai de la chance dans mon malheur, c'est-à-dire qu'il faisait beau, que j'étais sur un parking, j'ai pu changer
et
mettre la route de secours. Ouais, j'ai une vraie route de secours parce que sur la 205 il y a encore des vraies routes de secours qui sont quand même... galère à démonter, c'est comme la 4L en fait, la roue elle est sous le plancher du coffre, donc il faut dévisser en fait un truc pour faire tomber la roue de secours et,
ah, oui,
et la récupérer.
Vois.
Et le cric est à l'avant sous le capot avec
la
manivelle. comme la 4L d'ailleurs, hein, c'est le même principe, mais bon, voilà, donc j'ai changé la roue, j'ai fait réparer l'autre roue, que j'ai récupéré ce soir, mais j'ai pas encore remis la bonne roue parce qu'il faisait nuit, j'avais pas envie, donc je le ferai demain matin, voilà, mais la petite mésaventure du jour en 205 GT.
Starter, le sondage.
Bon, comme chaque semaine, on vous donne une question à répondre selon vos envies, selon vos préférences. Sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook d'Indestar, hein, Indestar tout court, et puis la page Instagram.
Oui.
Donc là, c'est Indestar Radio, voilà, tout attaché, en story. La question de la semaine était, pour votre prochain achat, envisagez-vous plus petit, d'acheter plus petit que la voiture que vous avez? Vous avez été nombreux à répondre, et pour la grande majorité d'entre vous,
c'est non.
Non. 80%.
Ouais, c'est étonnant. On veut toujours plus gros.
Eh ben, on veut toujours plus gros, apparemment. Et pourtant, on sait qu'il faut acheter plus petit, les gens. Mais non, vous voulez pas. Bah voilà, vous voulez pas.
On veut plus gros mais plus économique.
En même temps, je ne dis rien. Je viens d'acheter une Honda Accord de 4,70 m de long alors que j'avais
une 205.
Une 205 qui faisait 1 mètre de moins. et voilà, bon, je vous comprends. Je comprends, mais c'est pas cool pour
la planète.
Ouais,
pour les babouins, tout ça.
Ouais, c'est un peu fuck la planète, quoi.
Ah bah là, là, c'est un peu ça. Ouais.
Starter, les brèves.
On a fait le tour de l'actualité automobile, moto aussi, voire même voiturette, Antoine.
Oui, moi, c'est une voiturette, ouais.
Ouais.
La Casilini Gran Turismo.
Casilini.
Alors attends, parce que Casilini, pour moi, ça me...
Déjà, ça sonne italien. Italien.
Ouais, c'est une voiturette italienne.
Et ça me fait petite voiture. Par contre...
Petite maison qui roule.
Gran Turismo, une petite maison qui roule. Gran Turismo, là, je pense au jeu de voiture de sport. D'ailleurs, la version 7 est sortie il n'y a pas longtemps.
Du coup,
oui, j'étais.
Mais donc, si, ouais. Donc, voiturette sans permis, mais sport.
Ouais, bah, ça, ils en ont fait 10 000, mais en vrai, on est d'accord que les caractéristiques techniques, on est toujours limité à 45 km/h. Et,
il y a un problème de concept.
Il y a un problème de concept, clairement. Mais pourtant, ils s'acharnent, les constructeurs de voitures sans permis. Ils s'acharnent à mettre des bandes blanches, à mettre des ailerons.
Ils veulent juste le look, en fait.
Ils veulent juste le look.
Parce qu'en termes de performance,
ils
t'as rien
des sportive. Faux pots d'échappement en inox. Il n'y a même pas de pot d'échappement sur une voiturette.
T'imagines, t'as des freins à main pour freiner quand t'as 300 km/h, ça freine super bien. Mais tu peux rouler qu'à 45.
C'est ça.
Quel gâchis.
Mais c'est ça, quel gâchis. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette petite voiturette
Là, le moteur, ça sera un 488 cm3.
Oui, bah ouais, ça, on est limité.
On limite à 45, hein, ouais. Bien sûr. Volant sport avec insert rouge racing.
Ouais. Volant de jeu vidéo avec insert Jackie Tuning.
Insert volant PlayStation 1 inclus. Ouais.
Siège tissu imitation cuir.
Ouais. C'est en sky, donc ça s'écaille au bout de 20 000 km. Ouais.
Ceinture de sécurité rouge pour être
en
sortie avec le volant.
Bon, ça d'accord, ok, allez, j'accepte. Ceinture de sécurité rouge.
Tableau de bord numérique.
Oui.
Écran GPS.
Pour afficher
avant, ils n'avaient pas de tableau de bord.
Non, mais pour t'afficher que t'avances pas, quoi.
Que t'roules bien à 45.
Ouais.
Écran GPS.
D'accord.
Et radar de recul.
Non, mais attends. Non, mais ça, faut arrêter les radars de recul sur une voiture sans permis. Je veux dire, passe ta main à l'extérieur, tu vas le sentir, le mur, quoi. Je suis désolé, mais. Et combien cette petite merveille technologique ?
Je sais pas,
y a pas le prix encore. Non. Ah, c'est dommage.
C'était gratuit alors ?
Non, c'est hyper cher les voitures sans permis. Mais bon.
Moi, je dirais au moins dans les. Une estimation, je dirais au moins 10 000.
Ah, mais plus.
Par 15 000.
Mais plus, bah oui, c'est.
Parce que c'est sport.
Là, c'est sport, c'est 20 000 balles. Hein. Attends, ouais, non, mais c'est sûr.
T'en as pour moins cher de passer ton permis. Tu peux même le rater deux ou trois fois ce tarif-là. Ouais, mais fois, une Twingo ou je sais pas quoi.
Non, mais ça s'explique après. Ça s'explique parce que c'est des petites séries, parce que voilà, c'est particulier. Mais on est d'accord, c'est hyper cher.
Ouais,
c'est hyper cher pour ce que c'est, parce que franchement.
Je sais pas, c'est dans le concept en soi. Si c'est sans permis, bah du coup, ouais, tu dois pas avoir les mêmes contraintes que le fait d'avoir le permis.
Bah là, justement, alors tu te décharges du côté réglementaire, mais ouais, en termes de prix d'achat, parce que même une voiture sans permis d'occasion, oui, il faut le code.
Ouais.
Et une voiture sans permis d'occasion,
permis, en fait.
C'est
5 000. Hein.
C'est cher, ouais, bah, oui.
Il paraît que t'as pas le droit de griller un feu rouge quand même. Hein.
Ah bah non.
Ah oui, donc permis ou pas.
La marée-chaussée, elle est pas contente.
Parce que j'ai un ancien collègue qui cherchait une voiture sans permis. Puis je lui ai dit, j'étais un peu sur le bon coin, un truc comme ça, pour
l'entendre. Ouais, non.
Non, c'est hors de prix.
Elle avait dit, j'ai 5 000 de budget. 5 000, il y avait pas.
Bah non.
Il y avait au moins 6, 7 000.
Ouais, ou alors t'as une voiture sans permis des années 80.
Tout cassé. 30 maximum.
Non, alors pas forcément, parce que justement elles étaient pas limitées à l'époque, donc elles peuvent monter des fois un peu plus, genre à 60, tu vois. Mais c'est mort. Enfin, déjà à 20 000 km, c'est mort une voiture sans permis, donc n'achetez pas une voiture sans permis d'occasion des années 80 si c'est pour rouler avec tous les jours. Clairement. Par contre, pour vous amuser dans un champ, là il y a matière. Teddy, une brève.
Oui, alors vous connaissez sans doute pas la AAA Data. AAA Data.
Non.
C'est une société de statistiques.
Waouh, ça fait rêver ton truc.
Ouais, bah ils font que ça des statistiques.
Hein. Ok.
Et ils ont vérifié la moyenne d'âge des véhicules en circulation en France, là en 2021.
Ah oui.
Elle a augmenté.
Oui, ça tendance
ça
à vieillir.
Ça fait que augmenter. Ouais. Enfin, oui, vieillir entre guillemets, donc augmenter. Mmh. On est à 11 ans. Donc la moyenne, ça fait augmenter. Ouais. C'est 11 ans. C'est sur 41 millions en France.
Mmh.
Il y a 41 millions. Enfin, 41 millions.
Donc 41 millions de véhicules, on va dire.
Oui, voilà, ouais. 41 millions. Oh putain, je vais pas y arriver. Millions de véhicules en France, ouais. Donc en moyenne 11 ans. 93% de ces véhicules, c'est tenu par des particuliers.
Ouais.
Voilà, donc 7% de professionnels. Professionnel, ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce chiffre-là surtout qu'il faut retenir. Une voiture sur deux des 41 millions, c'est des voitures neuves achetées. Enfin, c'est des particuliers qui ont acheté des voitures neuves. Attends, je vais la refaire d'une autre manière parce que ça va vous embrouiller. Sur 41 millions, t'en as la moitié, c'est des particuliers qui les ont, qui ont acheté des voitures neuves.
Qui l'ont acheté neuve.
Ouais. Alors qu'il y a 93% d'usagers, enfin de voitures, enfin de particuliers sur la route.
Oui.
Donc est-ce que vous voyez le truc?
Oui. C'est-à-dire
que les particuliers n'achètent quasiment pas de voitures neuves. Enfin, quasiment pas. Si, ils en achètent, mais presque pas.
Maintenant, c'est beaucoup les flottes d'entreprises qui achètent des voitures, voilà, qui ne les gardent pas longtemps parce qu'on est en option achat, location longue durée, et qui les revendent à des particuliers par la suite. Le parc se retrouve en particulier en seconde main. Mais oui, c'est explicable.
Après,
dans le
c'est
sens...
explicable avec le Covid notamment.
Oui, puis pas que.
Parce la crise des semi-conducteurs, tout ça. C'est...
Mais ça, c'est là, on est dans l'histoire très récente, mais c'est vrai que déjà depuis un moment, enfin, acheter une voiture neuve, ça a toujours été cher.
C'est
pour
un budget aussi maintenant.
Et à mon avis, ça va pas aller en s'améliorant avec les voitures électriques, qui sont en grosso modo 30% plus chères que ce qu'on a en thermique. Donc forcément, ça va être compliqué. Ouais, je pense que on va ce temps qui cette durée qui augmente va continuer d'augmenter dans les années à venir. Après, ça veut dire aussi que les voitures qu'on a, elles tiennent bien. Parce que voilà, c'est la voiture, elle est pas morte au bout de 10 ans. Parce que c'est vrai que dans les années 80, jusque dans les années 80, dans les années 70 et 80, allez, hein, pour schématiser, t'avais beaucoup de voitures qui avaient tendance à rouiller prématurément.
Ouais, parce qu'il y avait pas de traitement et tout ça.
Voilà. Donc beaucoup de voitures qui étaient au niveau moteur, etc., qui étaient impeccables et qui avaient pas beaucoup de kilomètres, mais qui partaient à la casse quand même parce qu'elles étaient toutes rouillées. Donc ça s'explique aussi. Moi je vais vous parler justement en parlant de rouille, de recyclage. On va parler recyclage, on va parler Skoda. Même si c'est pas la seule marque qui se penche sur le problème, je vous ai trouvé un exemple concret sur une voiture de série de comment on remplace le plastique traditionnel qu'on a par exemple sur la planche de bord ou sur les sièges en tissu par des matériaux recyclés. Donc par exemple sur le nouveau Enyaq, cherchez pas, c'est un SUV électrique, ils ont compacté des bouteilles plastiques pour les réduire en granulés. Et à partir de ça, il les mélange avec de la laine et du fil traditionnel pour en faire pour habiller les sièges. Voilà.
C'est un peu le même principe que la fibre de verre, mais avec du plastique et de la laine.
C'est ça. Et pour la planche de bord, pareil, elle est faite à partir de matériaux recyclés. Donc, j'ai pas vu ce que ça donnait en fait en termes de différence visuelle ou de toucher, ce qu'il peut y avoir avec ce qu'on connaît normalement, mais. Déjà, c'est une tendance globale, hein, c'est-à-dire que les constructeurs arrivent petit à petit sur ce terrain-là. Certainement que dans les années à venir, on aura la plupart de.
Plus de recyclage.
Voilà, des matériaux de nos voitures qui seront issus du recyclage, que ce soit d'ailleurs à l'extérieur ou à l'intérieur.
Ce qui est pas plus mal d'ailleurs.
Ouais, attends, tu penses que c'est plutôt une bonne idée?
Bon, ouais, enfin, moi j'essaie d'acheter des voitures pas trop récentes parce que j'aime pas tout ce qui est récent en ce moment.
La voiture est déjà recyclée. Ouais.
Mais effectivement, moi ça m'aurait pas dérangé d'avoir un truc tant que c'est joli au final, on s'en fout de
c'est
la
vrai.
Provenance.
Enfin, bah, j'ai vu par exemple sur la Renault Zoé qui la version pas recyclée, mais la version restylée. La Renault Zoé, c'est pareil, les sièges ils sont faits en tissu recyclé. Franchement,
en toile de jute.
Non, mais j'ai pas vu la différence avec un tissu classique. Donc pourquoi pas, hein, si c'est bon pour l'écologie. Tant qu'on me force pas à manger un steak de légumes, moi je suis ok. Hein, ça y est, pas de souci. Ce soir, dans l'aventure de Starter, on ne va pas parler de voiture, on ne va pas parler de moto, non, on va parler de tricycle motorisé. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Hein, c'est un entre deux, Antoine.
C'est vrai que c'est à trois roues.
Ouais, c'est ça. faut faire des concessions dans la vie, que voulez-vous. Alors, je sais que c'est pas le genre d'engin qu'on voit couramment hein, dans la vie de tous les jours.
Quasiment jamais, j'en ai jamais vu, je crois.
Bon, c'est possible que tu n'en aies jamais vu.
En vrai, je veux dire.
Ouais, moi c'est vrai que j'ai vu ça sur des
vidéos.
Ouais, ou sur des salons auto, ou enfin des
rassemblements
auto, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je pense pas.
Ça, j'ai jamais vu en plus, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est.
C'est très rare par chez nous.
C'est très rare. Bon, cela dit, ça existe depuis le début, depuis la fin du 19e siècle, la fin des années 1800, au tout début de l'automobile, hein, finalement, où d'ailleurs il y avait plus de tricycles que de quadricycles. Rappelez-vous, quand on avait parlé par exemple de Louis Renault, on avait dit que le mec s'était entraîné à monter et démonter des tricycles de Dion Bouton. Voilà, c'était des tricycles. Il y a aussi la Benz Patent Motor Wagon qui date de 1886.
Ouais, précurseur à la voiture.
Ouais, c'est, on peut considérer comme effectivement la première voiture, même si elle avait que trois roues. Hein. Il y avait les engins de Léon Bollé, ça c'est un français celui-là, donc voilà, c'est pareil, c'est la fin du 19e. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu passé de mode. Hein. Même si en Angleterre, il y a un constructeur de petites séries que vous connaissez certainement, c'est le constructeur Morgan.
Ah non.
Morgan, vous savez, c'est ceux qui font les châssis en bois sur leurs voitures. Et ils ont sorti en 1909 la Morgan Three Wheeler, qui, comme son nom l'indique, a trois roues, hein, deux grandes à l'avant et un pneu large à l'arrière. Donc il n'y a pas de portière, vous imaginez une sorte de petite baignoire hein, pour s'asseoir dedans. Et vous êtes propulsé, c'est un moteur qui se situe je crois à l'avant, mais par contre c'est propulsé à l'arrière. Donc,
c'est bien foutu.
Oui, bah disons que c'est sympa à conduire, quoi, c'est marrant.
Derrière, hein, ils vont faire une nouvelle bientôt je crois.
Oui, tout à fait. Ils l'ont déjà sorti. Quand tu dis bientôt, c'était 2011.
Ah bah ça.
Quelques années de retard.
Ah bah ouais, bah,
l'avantage de ce genre de véhicule, c'est que c'est léger et qu'il n'y a pas besoin d'une puissance de ouf pour être performant. Donc voilà, light is right, comme disait le patron de Lotus à l'époque. Une autre marque anglaise hein, d'ailleurs. Bon, maintenant ils veulent faire des SUV, donc voilà. Tout se perd, ma bonne dame. Bref, on aurait pu s'arrêter là, mais vous savez que nos amis anglais ne font rien comme tout le monde. Et le gouvernement a trouvé l'idée de la Morgane en fait vachement bonne, au point de pondre une loi qui considère les trois roues comme des motos, voire même des voitures sans permis, s'ils sont catégorisés B1. C'est-à-dire que c'est selon la cylindrée et le poids, hein, il faut que ça fasse moins de 500 kg. Et ça nous permet de les conduire donc, bah, soit avec un permis moto, soit avec pas de permis du tout. Donc forcément, alors j'ai pas la date exacte, mais on est dans les années 60, il y a une époque où on est dans cette loi-là, où le permis de conduire n'est pas donné à tout le monde, donc ça arrange bien des gens. Autre avantage de ce genre de voiture, c'est qu'il y a un avantage fiscal, c'est moins taxé par l'État qu'une voiture, c'est taxé comme une moto en fait finalement.
Ils encouragent un petit peu au final.
Exactement, on paye pas les ferries non plus. Donc tout ça fait que les Anglais commencent à aimer ce genre de trucs, hein, et les constructeurs commencent à les fabriquer. Il y a quelques exemples de tricycles anglais, Antoine par exemple.
Morgan Freeway.
Bah, la Three Wheeler, ouais, évidemment.
En 1935, moi j'ai celle de 1935.
De 1935. Ah oui, ok, oui, 35. Parce qu'il y a eu plusieurs modèles évidemment de Three Wheeler.
Une 4 cylindres à soupape latérale.
Ouais.
Moteur Ford.
Ok.
Un V-twin.
Ah bah on retrouve. Mais oui, alors je sais pas.
Qu'est-ce qu'un V-twin?
Alors qu'est-ce qu'un V-twin? Les V-twin sont.
C'est V-twin normalement.
C'est un moteur en V.
C'est un moteur en V. Alors tu n'as pas suivi le sujet sur la Harley, mon petit Eddie.
On en a parlé. Les nouvelles Morgan, c'est des moteurs Harley. En
fait. Oui, oui. Alors je sais pas si c'était le cas à l'époque dans les années 30.
Non, c'était des moteurs Ford.
C'était des moteurs Ford. Mais les V-twin, en fait, quand on avait parlé d'Harley, on avait dit qu'il y avait un cylindre dans une partie et l'autre cylindre dans l'autre. Et ça se croise, ça fait en V et ça fait le V-twin. C'est un des moteurs américains les plus connus et c'est ce qu'on avait sur les Harley Davidson notamment.
Ça faisait entre 32 et 40 chevaux.
Oui. Waouh. Alors mais c'est pas ouf. Cela dit, je me dis, voilà, ma 4L fait 35 chevaux. Et c'est une 4 roues et elle fait 800 kilos. Ça fait 400, 500 kilos. Donc, tu vois, c'est pas ridicule. Hein.
Ça avance un petit peu quand même.
Surtout en 1932.
J'ai la Messerschmitt KR175.
Ouais.
Donc de 1955. Elle est équipée d'un moteur de 13 chevaux.
Okay. Ça avance moins bien déjà.
Là, c'est un peu plus.
Oui, mais par contre, ça t'as dit Messerschmitt, ouais, alors, c'est un tracteur.
Par contre, au niveau vitesse, ça monte à 130.
Ah, ouais, quand même.
Et elle est connue pour avoir fait plus de 25 records du monde sur la piste du circuit d'Holkenheim.
Ouais, bonne chance pour le dire.
Bah, bien.
Holkenheim.
Holkenheim,
voilà.
Et en 2020, elle a la Carver One.
Ouais.
Donc, elle est équipée d'une roue fixe à l'avant.
Oui.
Dans une roue unique.
Ah, oui.
Parce que les roues sont pas fixes sinon.
C'est unique. Donc en fait, il n'y a qu'une seule roue à l'avant.
Oui, il y a une seule roue. Oui, contrairement à la Morgan par exemple, où il y avait deux roues à l'avant et une roue à l'arrière. Là,
ils l'ont mis à l'envers.
Ouais.
Et c'est une 4 cylindres de 68 chevaux.
Ok.
Qui équivaut à une Twingo. Hein.
Oui, ouais. Largement, ouais.
Et la voiture se penche dans les virages.
Oui, comme une moto.
Ouais, comme une moto.
Tu ressens les mêmes sensations qu'une moto. Ouais, ce qui n'était pas le cas par exemple d'un modèle mythique anglais des années 70, 80, 90, même jusqu'à début 2000, qui était la Reliant Robin.
Ouais. Bah, se penche elle aussi. Hein.
Oui. Elle, t'as aussi une roue à l'avant et deux roues à l'arrière. Par contre, quand elle se penche, faut vraiment s'inquiéter parce que, bah, Vous imaginez bien que ce type d'architecture...
Je dirais pas qu'il faut s'inquiéter. C'est à Penche, je crois qu'il arrive. Ouais, de toute façon, à Penche.
Ouais. Mais c'est ça. C'est en fait, quand ce type d'architecture, ça peut pas...
Ça ne peut pas marcher.
Surtout qu'il n'y avait aucune aide électronique, évidemment. Ça a été fabriqué de 73 à 2001.
Hein. Elle avait beaucoup trop de puissance par rapport au poids qu'elle faisait et par rapport au fait qu'il n'y ait qu'une seule roue et deux derrière.
Mais même le concept...
Oui.
En fait, c'est une deux places... Donc voilà, avec une carrosserie, etc. Contrairement d'ailleurs à la Morgane, hein, qui était une seule place. Mais deux places, vous imaginez une voiture, on va dire une citadine, avec une seule roue à l'avant. Donc forcément, quand tu prends un virage un peu sec, ou quand il pleut, ce qui arrive genre 80% du temps en Angleterre, je suis désolé, mais c'est...
Il pleut là-bas.
Et ben, tu te prends le fossé, et si tu te le prends et que t'es pas encore retourné, c'est que t'as de la chance. Parce que forcément, bah, ça a tendance à rouler bouler assez facilement.
Et oui, et d'ailleurs ils en font souvent part.
Bah, et déjà tu sais que ça alors déjà c'était élu pire voiture anglaise de tous les temps. Alors que pourtant ça a été vendu à 1 million d'exemplaires.
Donc c'est leur meilleur emblème.
Les Anglais l'adoraient cette voiture. Mais elle était surnommée aussi le Plastic Pig, le cochon en plastique, parce qu'elle était fabriquée tout en plastique. Donc déjà tu te retournais, mais en plus ça avait aucune protection. Tu savais que t'allais mourir. Tu te voyais mourir. Tu te voyais partir.
En vrai je pense qu'ils auraient mis plutôt deux roues à l'avant et une roue à l'arrière.
Ça aurait été mieux, je pense.
Ouais,
je pense que tout aurait été mieux que ça, mais d'ailleurs, oui, c'était raillé un peu en pop culture, Teddy. Hein.
Bah oui, notamment dans Top Gear, une émission que tu affectionnes particulièrement,
oui,
je crois.
Oui,
et tout le monde affectionne au moins cet épisode-là.
Ouais.
Je l'ai regardé pour le coup, hein. Pour le bien de cette émission, je l'ai regardé. Et il se trouve que oui, effectivement, Jeremy Clarkson s'amuse avec une Ralliante. Laquelle Ralliante ?
La Robin.
La Robin.
Ouais. Parce qu'il y a eu aussi.
Il se renverse tout le temps avec. Oui. Et il s'en moque, il le moque, enfin il se moque de cette bagnole.
Il y a eu la régale aussi chez Reliant qui était une 3 roues. Alors il paraît que secret de tournage des années plus tard, il aurait demandé à des équipes techniques de modifier le différentiel arrière de la voiture pour qu'elle se retourne plus facilement qu'en réalité.
C'est peut-être possible.
Mais oui, l'idée
est là. Il se retourne quasiment tout le temps. Il y a des gens qui viennent l'aider, la remettre droite. Ouais. Ça, voilà. Même à la fin, il met des roulettes que, comme sur les vélos pour apprendre à rouler, il met des petites roulettes à l'arrière de la manière.
Bah, il trouve une parade.
Voilà.
Sauf qu'au moulin, ça tient plus ça tombe quand même.
Bah, bien sûr, ouais. Mais tu sais que suite à ce tournage d'épisode mythique de Top Gear, il y a eu une montée en puissance de clubs fans de Reliant Robin, parce que oui, ça existe, hein, si vous doutez de cette info. Il y a des clubs de fans, de tuning, etc., de la Robin, et il y en a qui sont montés contre l'émission Top Gear en se disant que oui, ils avaient détruit un mythe de l'Angleterre et que c'était irrespectueux, et etc. Quoi. Voilà. Bon, après, c'est ce qu'on appelle de l'autodérision, ils en ont vachement dans Top Gear, donc je trouve ça cool. Quoi.
Et puis de toute façon, il y a aussi des courses aussi de Reliant qui prouvent qu'effectivement ça se renverse comme pas deux. Les courses Reliant, c'est quelque chose de fun, hein, franchement.
J'imagine.
Ils se prennent pas la tête, eux non plus, les organisateurs. Voilà. Il y en a même encore maintenant, hein, mais comment dire, c'est humoristique, quoi. Ils savent que ça va se renverser, donc ils
tu
le font
quand
même.
Tu sais pas à quel moment ça va se renverser, mais tu sais que ça va se renverser.
Donc
quoi.
Bon, peu importe. T'évites de sortir de ta bagnole pour la remettre droite, mais voilà, tu t'amuses. Voilà.
Après, c'est tellement léger que tu peux demander à un collègue de la remettre sur le pied. C'est
d'ailleurs
ce qui arrive
dans le reportage c'est un peu dangereux.
De Top Gear, il avait demandé aux gens.
Ça,
il
demande à des gens n'importe où. Ouais, excuse me.
Ouais. D'ailleurs, tu parles de Top Gear. Ils ont fait plusieurs épisodes avec la Robin et dont une où ils l'envoient dans l'espace. Alors dans l'espace, c'est peut-être un grand mot, mais ils essayent de l'envoyer par une fusée le plus loin possible.
Un autre épisode aussi qu'ils l'envoient. Enfin, ils l'ont transformé en bateau.
Ah oui, aussi, oui. Et ils ont tout fait avec la Robin.
On essaie de battre un record, mais une fois qu'ils l'ont
jamais. On la voit même, la Robin, dans le film d'animation Pixar, Cars 2.
Ouais.
Il y a une Reliant Robin dedans, si vous voulez voir. Elle joue un agent secret français.
Est-ce
français, pourquoi
gagne,
je sais
parce
pas.
Parce que Cars, c'est une course automobile, non, dans l'idée.
Alors, le premier, oui.
Ouais.
Le deuxième, c'est un peu différent.
D'accord.
Je t'invite à le regarder pour comprendre.
Je suis pas très dessin animé.
Eh bah, oui, mais tes voitures.
Oui. Ouais, c'est vrai que ça comprend.
Eh oui,
ouais.
Il faut.
Et puis, si tu parles de mythe anglais aussi, on a Mr Bean.
Oui, Mr Bean, alors, lui, il avait pas une
non,
Reliant.
Lui, c'était la Mini.
Mini.
Autre
mais
mythe anglais.
À chaque fois, il croisait une Reliant Regal, super van 3. Là, c'est précis, bien hein. Le nom, ouais. Et apparemment, on se renversait tout le temps.
Oui. Ouais. C'était un peu le gag de
le running Mr.
Bean, ouais, running gag, gag, pardon. Où il croise la Robin d'un peu trop près, ou la Reliant, je sais plus comment elle s'appelle là.
Alors, Reliant Regal, Supervan.
Ouais. Et à chaque fois où elle se retourne, c'est.
On dirait une transformation de Dragon Ball Z. Ouais.
Alors que pour une merde comme ça, est-ce que ça vaut le coup d'avoir tout ce noir à longe?
Je sais pas, mais bon, c'est comme ça.
J'en ai d'autres, hein, des petites voitures anglaises pour les exemples. J'ai la Peel P50, qui était d'ailleurs une voiture qu'avait essayé Jeremy Clarkson aussi dans Top Gear, qui est une minuscule voiture avec où tu c'est vraiment une place, mais ça prend la place d'une trottinette électrique, hein, comme voiture. Et c'est aussi une 3 roues. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais la BMW Isetta, qui était pareil, une très petite voiture avec une porte à l'avant pour entrer. Oui. Tu la vois, la Isetta, ou pas?
Non.
C'est vraiment une petite voiture où tu rentres par l'avant et ouais. t'as le volant et tout ça, et voilà. Et qui est une 4 roues quand elle a été lancée en Allemagne, et quand elle a été exportée en Angleterre.
Ils se sont dit, on va en enlever une.
Bah oui, parce qu'ils
pour
sont dit, comme
public.
Ça, ça va rentrer dans cette loi, et les Anglais vont l'acheter.
Elle n'était pas indispensable, celle-là, on l'enlève.
Je sais pas si elle a eu un grand succès en Angleterre, faudrait regarder les chiffres, mais en tout cas, elle a eu le mérite d'être là, quoi.
Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Ce qui a le mérite d'être là aussi. J'ai une petite pépite. Il y a un gars, un Britannique, il s'est déclaré fils caché de John Zachary DeLorean.
Oui, donc on voit la DeLorean Retour vers le futur, des MC12, tout
voilà.
Ça.
Ouais, ok. Il s'est dit, il aimait bien les Reliant Robin, il aimait bien les DMC12. Il s'est dit, on va mixer les deux.
Ah non.
Mais si. Il a pris la base d'une Reliant Robin, il a mis des portières papillons, il a mis le pare-choc des MC12, voilà.
Avec ça, c'est quand t'as pas de thune, on est d'accord.
Je sais pas. Il s'amuse, il est autoconstructeur de bagnole, quoi.
Ouais.
Si, il est devenu un constructeur. Enfin, je sais pas si il est constructeur, mais bon. Voilà, il a créé sa propre Reliant, donc la Reliant Railto. Ça, c'est dur à dire.
Ok.
Et il les vend en plus, ce con. Il les vend, il en fait plein et il les vend, enfin plein.
Oui, donc il est devenu constructeur automobile, quoi.
Oui, ouais. Il en a 5 en commande. Waouh, wow, c'est ouf.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens pour l'acheter aussi.
Tu peux l'acheter, ouais.
Ah.
Si t'as 23 500 euros, tu peux acheter ça. La fusion de voiture de Retour vers le futur avec une Reliant.
C'est un Anglais.
C'est un Anglais.
Ouais.
Donc techniquement, je pense qu'il a visé ça pour des Anglais.
Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'on aime les Anglais, c'est pour leur originalité. Même si autant pour la Morgan avec deux roues à l'avant, une roue à l'arrière, c'était bien, autant en plus c'était au ras de la route, c'était facile à conduire et sympa à conduire. Autant pour la Robin, bah voilà, on a vu que l'intérêt, l'intérêt il était très peu là. Après, ce qu'on pourrait se dire, après toute cette période-là, parce que c'est plus vrai, hein, l'histoire des trois roues avec les loups anglaises, etc., on pourrait se dire donc c'est la fin des tricycles à moteur. Eh ben non. Non, parce qu'il y a des concepts, et même des voitures de série, hein, qui sortent régulièrement, comme par exemple la descendante de la première Morgan, donc tu le disais, ouais. Antoine, hein, depuis 2011, avec un moteur qui est dérivé d'une Harley Davidson et une boîte de vitesse de Mazda MX-5. C'est un mélange américo-japonais.
Wow.
Pourquoi pas, hein, voilà. Et là, il y a le côté moderne de la mécanique, mais niveau look, c'est quasiment la même que celle de 1909. Donc ouais, ils ont très peu changé le look. Puis il y a alors comment ça se dit, Pembleton, je crois, qui est une marque qui a une vingtaine d'années, qui a d'abord fabriqué des kits à monter soi-même et qui propose maintenant des trois roues à la vente. Alors ça reste effectivement une production hyper confidentielle, mais on peut en importer une trois roues comme ça d'Angleterre pour à peu près 30 000 euros, ce qui est à peu près la moitié du prix de la Morgan. Voilà, faut plus compter 60-70 000 pour une Morgan. Et puis il y a des nouvelles entreprises aussi comme Aptera ou Helio, qui voudraient en faire d'ailleurs une tendance d'avenir de... Après moi, non, mais on rigole,
ça dépend,
mais...
de quel avenir en
oui.
soi, parce que si tu veux, par exemple, il y a Fiat en Allemagne,
ouais.
Ils ont pris des Fiat 500,
oui.
Ils ont pris des Volkswagen Polo, des Seat Ibiza et des Skoda Fabia.
Des voitures qui existent déjà.
Voilà. Et ouais. Ils les ont converties en 3 plus 1. Donc en voiture 3 roues.
Mais alors là, quel intérêt? Là, je vois pas l'intérêt là-dedans.
C'est pour les voitures, pour faire des voitures en gros qui nécessitent plus le permis. Pour les jeunes,
ah,
en
ouais.
fait.
Donc pareil,
à
16 ouais.
ans,
ouais.
tu peux conduire ce type de bagnole-là.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait, tu as à 16 ans, t'as le droit de mourir plus facilement, quoi. Moi, je vois un peu
et
comme ça. Hein.
Alors, ouais,
une voiture qui est moins stable,
non,
juste parce que tu as enlevé une roue.
C'est trois roues,
ouais.
mais une à l'arrière et deux à l'avant.
Oui, oui, mais alors pourquoi j'imagine
pour
qu'ils
que
ont
les
réduit
jeunes
aussi le moteur.
Bien sûr,
ouais.
il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans la version... Enfin, beaucoup de choses. Ouais, hein, voilà. Ils ont gardé le confort en fait d'une vraie bagnole, on va dire, enfin d'une vraie voiture 4 roues. Voilà.
Des voitures qui existent déjà, ouais.
Mais ils ont juste modifié quelques petits trucs pour que ça passe dans la catégorie en dessous, dans la catégorie L5E, qui en Allemagne correspond à la catégorie pas de permis, t'as le droit de la conduire à 16 ans.
D'accord. Voilà. Donc, ouais. J'ai un peu de mal avec ces législations pour que ça rentre dans une législation parce que là tu prends une voiture qui existe. Alors, certes, l'idée du moteur plus petit, pourquoi pas, mais le fait d'enlever des roues, d'enlever des éléments alors que la voiture elle a été conçue pour être une 4 roues, je trouve que la voiture elle est moins sécurisante sur 3 roues que sur 4 roues. Quoi. C'est mathématique.
Ce qui est marrant, c'est plutôt son look hein, parce que du coup, ils ont.
En plus, c'est moche.
Oui, c'est bah comme oui, s'ils avaient mis des parois à la place des roues bah de oui. base. Et puis, alors,
comme la Robin, elle est moche.
La Fiat 500 qu'on voit, elle est signée Elenator, je sais pas qui c'est, mais ça doit être. D'avoir un sacré pète au casque. Il a pas enlevé une roue, il les a juste rapprochées toutes les deux au milieu derrière.
Ah ouais, c'est
donc ça fait
4
roues, 3 ouais. plus 1.
Ouais. Pour 3
acheter une offerte. Ouais. Je sais pas.
Non, bah après, par contre, le concept, si on prend le concept de la Morgane, tu vois, avec les deux roues à l'avant, une roue à l'arrière, et en étant seul à bord, et donc d'avoir une voiture très légère, moi je me dis pourquoi pas. Si on part de l'idée d'un moyen pour se déplacer par exemple en ville avec un engin léger et aérodynamique, c'est peu énergivore et d'ailleurs quelle que soit l'énergie qu'on emploie, et je trouve ça plutôt judicieux, en tous les cas plus judicieux que d'avoir un gros SUV électrique de 2 tonnes où tu vas être 90% du temps seul dans la bagnole quoi. Donc on avait parlé des Kekars que je vous invite d'ailleurs à revoir hein, sur la Daihatsu Copen la semaine dernière. On avait parlé des Kekars qui était donc la loi japonaise pour encourager à utiliser des petites voitures en ville. Là oui, dans ce cas-là, oui. Mais dans le cas de dire ça passe pour les jeunes ou ceux qui n'ont pas de permis, etc. Et ça en fait des voitures qui sont plus dangereuses.
C'est un peu abusé, ouais.
J'ai un peu de mal à accepter ça, quoi.
Mais du coup, une question me vient.
Mais vient-elle, vas-y.
Est-ce qu'on n'aurait pas une petite bagnole, mais 4 roues, qui serait parfaite pour un jeune conducteur?
Mais bien sûr que si. En France, on a la Renault Twingo.
Starter, le garage.
Ce soir dans Starter, un batracien, une grenouille.
Quoi? Mais t'avais pas dit qu'on allait parler de Twingo?
Si, on va parler de Twingo, mais justement...
T'es en train de me dire que ça ressemble à une grenouille, là?
Bah, c'était surnommé la grenouille, pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, les phares de la première Twingo, hein, qui sont en demi-lune à l'avant, ressemblent à des yeux de grenouille qui ressortent de sa tête aussi. Si, y a une ressemblance. Bon, après, on est français, on aime bien...
Ouais, les grenouilles...
Faire des rapports, comme ça...
Ouais, pas. Métaphorique.
Ouais, c'est ça. Le projet Twingo, la presse l'attend depuis les années 70. À l'époque, on parlait même d'une R2 qui serait plus petite que la R4, donc la 4L, et qui s'appellerait pas R3, vu que ça a été déjà donné à la 4L sur les versions bas de gamme qui étaient sorties en 61. Donc, sauf qu'on a attendu ce projet pendant très longtemps, c'était un peu une arlésienne pendant toute la décennie 80, jusqu'au moment où chez Renault ils se sont penchés sur le sujet à bras le corps. Pour le coup, ils n'ont pas fait semblant parce qu'on voulait de la surprise, on en a eu. Au mondial de l'auto de Paris en 92, on a découvert une petite voiture monovolume, je pourrais même dire monocore ou monospace, avec un tout petit capot qui est dans le prolongement du pare-brise et le reste de la voiture qui est entièrement consacré aux passagers.
Un cube.
Une Kekar quasiment. Alors, fun fact, Citroën, s'ils avaient eu les Coronès dans les années 80, ils auraient pu gruger Renault avec l'AX pour en faire un mini monospace. Cela dit, ils avaient fait une enquête de satisfaction, enfin pas de satisfaction, mais une enquête client.
Ils l'ont pas fait du coup.
Et ben non, ils ont suivi le fait que les gens pensaient qu'ils seraient pas prêts à avoir ça. Jamais écouter les gens, ils devraient le savoir quand ils ont sorti la DS en 55. Alors.
Ils sortent la Vantage, enfin c'est Renault, ils sortent la Vantage, mais ça marche pas non plus.
Ah, j'ai pas dit que ça marche à chaque fois. Des fois, mais bon.
C'est pas valable.
C'est vrai que là, tu m'as donné le parfait contre-exemple. Bref, chez Renault, ils ont osé, aussi bien à l'extérieur, dans la forme de la Twingo. D'ailleurs, le mot Twingo, c'est une contraction, c'est un mot valise. Hein.
Twin et go.
Le twist, le swing et le tango. C'est trois danses.
Oula. Ouais. Parce que sinon,
est-ce
ça a été
Twingo. Sans Twingo, j'en sais rien. Je sais pas, mais ça sonne bien. C'est vrai, ça sonne bien. Twingo.
Tu fais de la patinoire avec
Ça serait essayé,
en fait, quand ils ont fait les essais, ça bougeait tellement sur la route, ça n'était pas de tenue. Du coup, ils se sont dit, on va mettre de la danse.
Non, tu exagères. En tous les cas, on te voit en Twingo parce que la sortie en 93, t'as le droit entre du rose, du bleu, du jaune ou du vert un peu bizarre qu'on va retrouver à l'intérieur. J'ai même pas expliqué ce que c'est comme vert. C'est un peu pâle, mais pas trop.
Du vert Twingo.
Du vert Twingo.
Ouais, vert bouteille.
Non, c'est pas vert bouteille. Non, vert bouteille, c'est foncé au contraire. Et tu retrouves ce vert sur, par exemple, les boutons de la ventilation ou sur la manivelle des vitres, ce qui permet de colorer la planche de bord. qui elle aussi est originale, hein, parce que par exemple t'as le bouton du warning, ça ressemble à un gros buzzer de questions pour un champion, là tu vois le truc.
Et t'as envie de buzzer.
T'as envie de buzzer, t'as envie d'appuyer sur les warnings tout le temps, t'as le compteur digital qui est au centre de la planche de bord, ça c'est pareil, on est en 93, hein, c'est vachement en avance sur son temps. Et puis ça fait un peu oublier que c'est pas très bien capitonné à l'intérieur, et puis c'est pas très bien équipé non plus, même si bon, c'est vrai que par rapport aux autres citadines du secteur, ça va, mais c'est surtout que là t'as zéro option, t'as le choix entre une seule finition. Tu vois, t'as pas plusieurs gammes, ouais. Voilà, c'est une seule finition, zéro option. T'es obligé d'avoir par exemple les sièges trop courts en tissu bleu et rouge d'un goût... on va dire discutable, hein. mais par contre, cela dit, ces sièges ils sont vachement modulables. C'est-à-dire que quand tu veux monter à l'arrière, on rappelle que c'est une 3 portes, donc 2 portes principales à l'avant et le haillon.
T'as une manette qui te permet de.
Tu as une manette, mais qui bascule bien comme il faut les sièges pour t'accueillir à l'intérieur sur une banquette qui est une banquette de place. Hein, c'est une 4 places, pas une 5. Mais banquette qui coulisse, c'est une première et ça permet soit si tu la recules à fond d'avoir autant de place. Que dans l'autre gamme Renault à l'époque c'était la R25 et puis après la Safrane, donc une place présidentielle à l'arrière pour les pattes, ou alors si tu l'avances d'avoir l'espace d'une citadine, mais par contre le coffre d'une Clio qui est la gamme au-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas mal, évidemment tu peux pas avoir les deux en même temps, c'est pas extensible non plus, mais des fois ça te sauve la vie. Et puis cette banquette tu peux la rabattre, alors au choix tu rabats les dossiers en deux parties, ou alors tu bascules carrément l'assise pour avoir un coffre qui est entièrement plat. Donc c'est pas comme sur la majorité des voitures modernes où tu bascules l'assise et puis les dossiers, mais du coup qui sont au niveau du coffre qui a déjà été surélevé. Ouais. Là tu as le coffre qui est plus bas, du coup vu que tu rabats toute l'assise de la banquette. Et tu peux aussi incliner les dossiers de cette banquette dans l'autre sens, ce qui te permet
de t'allonger,
de te mettre en position couchette. Mais oui, alors tu fais la sieste, imagine t'es à l'arrière, tu pars en vacances, tu fais la sieste pendant que le mec conduit. Donc déjà cool.
C'est cool.
Bon, il faut pas avoir beaucoup de bagages.
Oui.
Là,
il faut pouvoir pencher les sièges. Si t'es en vacances, en théorie, ça passe pas. Voilà,
tu mets le sac de derrière, tu le poses sur les genoux du conducteur, voilà. Et tu peux aussi, quand t'es arrêté, coucher les sièges avant, donc en position couchette, plus les sièges arrière, ce qui te fait une belle couchette. Et qui peut te dépanner en fin de soirée alcoolisée ou de camping improvisé, ça te fait un lit. Donc tout a été prévu en fait dans la Twingo pour le côté pratique. D'ailleurs le slogan à l'époque de Renault, je sais pas si vous vous rappelez, c'était des voitures à vivre. Donc
pour voilà, s'en rappeler, faut être né là-bas.
Dans ces années-là, tu vas dire.
Ouais.
T'es né dans ces années-là.
Les voitures à vivre. Elle est sortie en 93, je suis né en 95.
Un peu petit. Oui, mais c'était encore en 95. Encore des voitures à vivre, t'as aucune excuse. Bref, on est en plein dedans non, avec la Twingo, il y a de la place en hauteur, le pare-brise il est vachement loin.
Panoramique, ah non.
Oui, panoramique, on peut le dire comme ça, mais il est c'est surtout très loin, donc t'as l'impression d'être dans un espace quasiment. Il y a des grandes fenêtres partout, donc t'as pas l'impression d'être étouffé.
C'est vrai que t'as l'impression d'avoir de l'espace à l'intérieur, et t'en as au final. Hein,
t'en as au final, ouais. Mais, oui.
Mais t'es vraiment dans une petite voiture d'extérieur, hein, donc... Ça incite un peu à la peur. Enfin, la peur. Si tu te dis, putain, il doit pas y avoir grand chose entre les deux.
Il y a pas grand chose entre les deux. Il y a un mini capot. On pourra parler de la sécurité passive. Non, mais qui est pas si ridicule que ça en fait. Quand ils avaient fait les premiers crash tests à l'époque, je crois qu'elle avait 3 étoiles.
Ah, c'est assez monobloc en soi. Enfin, c'est...
Oui. Voilà. Donc c'est pas foufou, hein, 3 étoiles ça serait 0 évidemment maintenant, et on pourrait plus concevoir des voitures comme ça maintenant. Mais
pour l'époque c'était pas mal, c'était pas déconnant.
Mais ça allait, et puis de toute façon quand la Twingo était conçue il n'y avait pas de crash test run cap, donc ils étaient pas embêtés là-dessus.
Puis ça pouvait pas aller si vite que ça non plus, ça faisait pas un point à 200 non plus.
Non, et puis bon ça reste de la petite voiture, on est à 3m43, donc voilà c'est assez léger aussi.
Elle a frôlé de 3 cm, elle aurait pu être une Kekar.
Ah oui, c'est vrai.
De 3 cm.
C'est vrai.
3,40 et 1,48 m de large.
Ah, t'as retenu, t'as
retenu.
Ouais,
j'ai retenu.
Et puis le moteur. Alors, le moteur, on peut en parler. Bon, même si c'est pas.
C'est un mini moteur quoi. C'est un moteur de 2.
Qu'en fait, en 93, quand ils ont sorti la Twingo, ils sont pas trop embêtés avec le moteur. Ils ont pris un ancien bloc en fonte qu'on a vu sur tous les modèles Renault des années 70 et 80 et que j'ai même sur ma 4L. Alors, ça a été retravaillé un petit peu et ça a été monté en 55 chevaux, mais c'est le bloc de la 4L que tu as dessus. Donc là, tu sens que chez Renault, ils étaient suffisamment autosatisfaits de la carrosserie pour pas s'embêter à mettre un moteur moderne dedans. Après, voilà, ça suffit pour les performances. Et puis, honnêtement, les gens qui vont acheter la Twingo, ils l'achètent pas pour ça.
Oui, ils achètent pas pour faire du sport.
Non.
Non, ils achèteront une Twingo RS plus tard.
Plus tard, effectivement, sur la Gen 2. Par contre, ils sont nombreux à signer le chèque, hein, tellement nombreux que je sais même pas si à l'époque, quand c'est sorti, Renault, ils étaient prêts à ce que ça fasse ce buzz-là. Déjà, ça a été un buzz sur le salon de l'auto en 92. Tout le monde était autour à se demander s'ils étaient sérieux chez Renault. Parce que. On rappelle que la décennie 90, en termes d'automobile, autant dans les années 80, on était un peu dans l'extravagance, le sport, les GTI, les bandes fluo, etc. Autant dans les années 90, c'est les années Clio. Et d'ailleurs, ils avaient sorti la Clio 2 ans avant. Donc, voilà, on n'est pas dans le concept un petit peu de voiture fun avec des couleurs délurées, etc. Et pourtant,
ça marche.
Ça marche très très bien. C'est-à-dire, passer l'étonnement, tout le monde a voulu en avoir une.
T'en as acheté une ? Non.
Alors oui, bien plus tard. Mais déjà, les vieux. Alors c'est étonnant parce que c'est une voiture qui avait été pensée pour les jeunes et ça l'a été après en occasion hein, parce que
c'est massivement encore utilisé pour les jeunes.
Oui et puis bon faut se dire je sais pas ce qu'ils avaient comme stratégie non plus chez Renault mais un jeune qui achète une voiture neuve c'est pas courant. Il faut avoir de la thune déjà parce que ça valait je crois 54 000 francs à l'époque quand c'est sorti, c'était en gros l'équivalent de 12 000 euros quand même tu vois. Donc bon 12 000 euros quand tu viens de passer ton permis voilà.
Ça fait mal.
Cela dit donc les vieux ont kiffé la voiture, les familles aussi en seconde voiture, ce qui a fait que Renault rapidement s'est dit qu'il fallait peut-être proposer d'autres finitions, des options aussi, et puis changer le moteur accessoirement, d'où l'apparition de ce qu'on appelait après les collections chez Renault. Nous on va appeler ça les changements, Antoine. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme changement sur la Twingo?
La phase 2
Alors pas tout de suite, pas tout de suite.
Ouais. Ah, il y avait.
Au stylage
Bah, j'ai
pas tout de suite.
Moteur. Ils sont passés à 60 chevaux déjà.
Oui, alors il y a eu déjà parce que la Twingo elle sort en 93.
Ouais.
En gros, tous les deux ans il y a des collections. Alors les collections, d'accord, ça peut être des petites choses. Ça peut être, je crois que genre en 95, ils ont changé la couleur des poignées intérieures et des petits boutons et notre sellerie.
Ah,
et
d'accord,
ils ont commencé, je crois, à avoir la version pack qui proposait, si on voulait, la version avec vitre électrique et rétro-électrique, tu vois. Donc déjà des petites options et puis fermeture centralisée.
Et le toit ouvrant aussi.
Et le toit ouvrant, ça c'est la version, je sais plus comment ça s'appelait, mais...
La version toit ouvrant, je
l'ai. Ouais, bah, en fait il y a eu deux types de toit ouvrant. Alors le toit ouvrant en vert qui était proposé plus tard, et attends, au départ il y avait le toit ouvrant que j'ai monté d'ailleurs sur ma 4L, qui est le toit ouvrant en toile, qui s'ouvre et qui te fait, c'est plus qu'un toit ouvrant en fait, c'est un toit, ça en fait une découvrable. Ouais. Non, pas décapotable, mais découvrable, on va dire. Tout le haut, sur trois quarts du toit, ça s'ouvre, quoi.
D'accord.
Il faut savoir que une Twingo, ça pèse 840 kg.
Oui, c'est pas lourd. Hein.
C'est léger, ouais.
Et 160, okay. J'ai 168 litres de coffre.
Ah non.
Ah, bah, j'avais ça.
Ah, bah, non.
T'as dit quoi, là?
68 litres, c'est
non,
pas 160. Beaucoup. Hein. Ah, 160, oui. Alors,
j'ai compris 168 000, moi.
Pas non plus, non.
Ouais,
j'ai du mal avec ce genre d'informations, dans le sens où je viens de dire qu'il y a une banquette coulissante. Donc, en fait, ton coffre, il varie de 168 litres en minimum à plus de, je crois, 230 litres ou un truc comme ça.
Là, c'était vraiment,
là, vraiment au minimum, ouais.
Après, il y a la génération 2 de la Twingo.
Oui, alors, non, pas génération, ouais. La phase 2.
Ah, la phase 2.
La phase 2, c'est en 98 qu'elle est sortie.
Ah, moi, j'ai fait la génération 2.
Oui, mais alors ça c'est bien plus tard. T'as sauté des étapes,
Antoine. Des
non, ouais, il y a eu la phase 2 qui est sortie en 98, qui améliore quand même pas mal de choses. Alors petit restylage visuel que vous pouvez voir avec les clignotants, avec les pare-chocs, etc. La sellerie et compagnie, mais aussi l'arrivée, tu l'as dit tout à l'heure, du nouveau moteur qui était un moteur beaucoup plus moderne que j'avais moi sur ma première voiture. Ma première voiture était une Twingo et c'était ce moteur-là, le D7F, il me semble, de mémoire, de nom de code.
Mais bien sûr.
Qui faisait 60 chevaux, donc un petit peu plus puissante, mais surtout plus moderne. Donc voilà, ça roulait mieux. Et après, par la suite, il y a eu d'autres collections, il y a eu d'autres restylages, la phase 3 notamment, qui a eu notamment une tenue de route améliorée, et la proposition d'un autre moteur. Donc après, t'avais le choix, t'avais le 60 chevaux ou la version 1.2 en 16 soupapes qui faisait 75 chevaux. Voilà, donc qui était le même bloc moteur, mais en version 75 chevaux, qui est pas mal parce que ça t'offre une conduite plutôt dynamique. C'est pas une moteur sportive non plus, hein,
mais pour 800 kg, ça va quoi.
Oui,
t'as moyen de
t'amuser. Ça suffit, et puis ça monte à 175 km/h si vous êtes sur Autobahn en Allemagne, évidemment.
T'as une phase 3
Une phase 3, j'en ai une.
Ça existe, Phase 3 ?
Ah oui, il y a eu même Phase 4, etc. Mais oui, en fait, j'ai eu une version TechRun qui était parmi les différentes séries spéciales, on va dire, une version entre guillemets sportive. Alors, elle avait rien de sportif parce que
c'était... À part le look.
À part le look.
C'était oui, parce une Twingo Tuning.
C'était le même moteur que la... C'était un litre 2, ça soupape 75 chevaux. Hein. Ouais. Mais elle avait ouais, des petits éléments de déco sympa. Sport vite fait hein. Mais genre t'as lu pare-choc entièrement pas un bleu qui était unique à la TechRun.
L'aileron derrière maintenant t'as pas
un mini aileron un mini spoiler ouais qui était intégré non mais c'était sympa avec une série intérieure aussi qui était spécifique à la TechRun et des petits éléments qui étaient tu sais en argenté voilà donc c'était cool.
Petite déco sportive soit
et effectivement comme ça au bout d'un moment on arrive au bout de 2 400 000 exemplaires, c'est ça.
On va changer.
Oui, on arrive à la Twingo deuxième génération. Alors, oui. C'est une voiture qui s'est très bien vendue sur le territoire français, mais ces 2,4 millions d'exemplaires ont été quasiment vendus qu'en France. Donc, à l'époque, Carlos Ghosn, vous connaissez, hein, le mec qui a fini en prison, là, vous voyez, il était patron de Renault à l'époque, et il s'est dit, j'aimerais bien que la Twingo 2, elle s'exporte mieux à l'international, parce qu'il a trouvé chelou un peu les pays étrangers, notre Twingo, donc il s'est dit, j'exige, parce qu'il exigeait, hein, Carlos Ghosn, que la Twingo 2 soit... on va dire plus sage, pour qu'elle réponde à un marché européen. Et c'est dans ce contexte-là que sort la Twingo 2. Antoine ?
Oui, donc elle était un peu plus grande déjà ?
Oui, légèrement, ouais.
Elle faisait 3,60 m de longueur.
Ouais. Ouais.
Et largeur 1,65 m. Mm-hmm. Donc déjà, elle était plus large et plus longue.
Ouais.
Et la hauteur aussi, elle était un peu plus haute.
Ouais, alors que pourtant, dans le même temps, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les normes avaient évolué, etc., tu n'as aucun centimètre de plus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ces dimensions ne sont qu'au bénéfice
du moteur,
notamment pour pouvoir loger un moteur diesel, ce qui n'était pas le cas sur la 1, et on était en pleine période du diesel pour la Twingo 2, et pour la sécurité en cas de choc frontal.
Elle a un look un peu plus arrondi maintenant.
Oh elle avait pas le carré
là, tout arrondi. Elle
était tout arrondi, c'était du biodesign
déjà à l'époque.
Clairement, tu trouvais bien carré moi là dessus.
Ah non, ouais, tu l'as mal regardé.
Je te montre des carrés si tu veux.
On va te montrer les carrés, la différence entre les carrés et les ronds.
Donc, ce tableau de bord déjà il est plus long. Je le trouve plus.
Plus long, c'est
plus long et plus. C'est plus long dans l'enfoncement.
Bon la Twingo 1, il est long quand même. Hein. Je vais te montrer. T'as plus souvenir d'une Twingo, tu vas voir que il y a une planche de bord d'espace. Enfin d'espace, j'exagère, mais l'espace, par exemple, si je compare avec la 205,
t'as un tableau de bord.
Je peux toucher très rapidement le pare-brise sur la 205. Sur la Twingo, t'as intérêt à mettre bien ton bras au long.
Quoi. J'aime pas les Twingo, moi.
Oui, après. Mais c'est pas une raison pour balancer des infos fausses.
Si, c'est vrai en plus.
Non. Il a gagné 2 cm.
Ils ont enlevé la prise d'air sur le.
Oui, sur le capot. Sur le capot, ouais.
Mais d'ailleurs, elle servait à quoi cette prise d'air ?
Elle servait pour le système de chauffage ventilation. Ah. Elle n'était pas pour le capot, en fait, elle était reliée directement à l'habitacle.
Si je me pose la question, je sais pourquoi ils ont mis une prise d'air sur le capot.
Non, c'était pas pour refroidir le moteur.
Ils ont pensé à enlever le pare-brise, mais ils se sont dit, non, c'est pas une bonne
idée. Ils ont enlevé aussi le toit ouvrant.
Oui, tu l'avais plus, je crois, que effectivement.
Ils ont dû le remettre sur d'autres versions après de la Twingo 2, j'imagine. Ouais.
De quoi ?
Le toit ?
Non, tu l'avais plus.
Non, ouais, ils l'ont quand même enlevé.
Ouais. Ouais, d'accord.
Par contre, t'avais la possibilité d'avoir un moteur diesel. Ce qui a toujours été une ineptie sur les petites voitures, parce que pour rentabiliser un moteur diesel sur une citadine, c'est compliqué. Mais c'était la mode, donc voilà, à l'époque.
Et puis ils t'ont fait une RS aussi.
Oui, alors ça, c'était bien joué.
Ouais. Ils se sont dit, on va faire une Twingo 2.
C'est peut-être
sportive.
Le seul intérêt que j'y vois à la Twingo 2 qui, pour moi, a tué un petit peu l'image qu'on avait de la Twingo.
Attends, t'as la Twingo 3.
Après, il y a pire. voilà. Mais c'est vrai que la Twingo 2, qui était très fade, alors quand ils l'ont restylée en mi-parcours, ils ont regagné un petit peu d'originalité parce que les gens, ils l'ont trouvé vachement fade. Mais bon. Pas suffisamment pour être équivalent à une Twingo. Par contre, ils ont sorti la version RS qui était une petite sportive bien sympa que je vous conseille d'ailleurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec une version d'occasion, mais c'était sympa.
Ça va.
Et du coup, après une carrière je vais pas dire raté parce que loin de là, on est à 900 000 je crois exemplaires vendus à peu près, enfin pas loin du million, donc pas un échec mais pas un succès retentissant non plus.
2001 ou 2009 ?
2007 la Twingo 2.
Ah, et bah ça arrête en 2014.
Oui c'est ça, 7 ans seulement. Ouais, alors que la première elle avait fait 15 ans de carrière, hein, ce qui est à peu près le double de, d'une voiture traditionnelle.
Ouais, ouais.
Hein.
La Twingo 2 ouais, ça passe.
Donc ça a marché on va dire raisonnablement. En tous les cas le pari de se dire on va l'exporter dans tout le monde entier et tout le monde va acheter une Twingo 2, non ça... Ça n'a pas marché comme ça. Et on arrive en 2014 à une période où Renault a déjà des liens avec Mercedes. On voit avec par exemple les moteurs diesel Mercedes qui sont en fait des moteurs Renault ou le Citan aussi qui est un Kangoo Robagé. Cette fois, c'est Renault qui va aller servir chez Mercedes, qui est propriétaire ouais. de Smart. Il va lui piquer la plateforme de la Smart 4 places, la
Forfour 2
Horrible comme nom.
Et la Fortwo 3.
Ouais.
Il va leur piquer la plateforme, comme tu le disais. Pour,
et avec ça, ils font une Twingo 3.
Et ouais, voilà, c'est ça. Nom de code X07. Mm-hmm. J'avoue que j'aime bien le nom de code. Et oui, du coup, ils font une petite Twingo 3 sympathique. Je sais pas si c'est sympathique.
Oh, au niveau look, elle est pas mal, ouais. Elle est mignonne.
Au niveau look, oui, c'est. Elle est un peu plus grande que la Twingo 2, mais bon, pas non plus excessif, hein, ça reste quand même. Voilà. La plus grosse différence qu'il y a, c'est le moteur, notamment, il est à l'arrière, ouais. Donc propulseur arrière.
Oui.
Ça change beaucoup de choses quand même.
Ah bah alors ça pourrait changer.
Ça change beaucoup de choses. Mais avec les aides électroniques, ça change plus
oui,
grand chose.
Au niveau du comportement routier, autant pourrait et s'attendre si. À une propulsion avec un comportement
ça change
d'une
quand même beaucoup de choses dans l'espace modulable oui. pour le coup.
Ouais.
Tu en perds au final un petit peu.
J'étais déçu moi.
Ouais,
en fait, j'ai été déçu parce que quand j'ai appris qu'ils allaient faire une Twingo avec en propulsion, je me suis dit c'est cool parce que ils gardent le côté original qu'avait la Twingo hein, sous une autre forme, mais ils gardent le côté original. Mais déjà, je pensais que ils allaient me ressortir une Twingo 3 RS, surtout qu'ils avaient mis en évidence un concept car avec une Twingo sportive avant l'apparition pour nous indiquer un petit peu les codes stylistiques qu'ils allaient choisir pour la 3.
Ouais.
Donc ils nous mettaient l'eau à la bouche. C'est une petite propulsion sportive, etc. Ça va être génial. Ils ont jamais sorti la version
c'est
RS.
C'est en projet.
Ah.
C'est en projet. Ils ont une Twingo 3 qui ferait 110 chevaux. Ça peut promettre d'envoyer quand même un peu du lourd.
Un petit peu. Ouais. Bon, après, c'est beaucoup plus lourd que les premières
c'est
Twingo.
C'est beaucoup plus lourd. Mais c'est toujours mieux que la Twingo 3 oui. sortie en 2020.
Mais par contre, le problème, c'est que c'est qu'il y avait masse d'aide électronique que tu ne peux pas déconnecter.
Effectivement.
Et ce qui fait que tu ne peux pas t'amuser avec. Et là où j'étais oui. déçu aussi, c'est dans l'espace. Parce que je me suis dit, s'ils mettent le moteur à l'arrière,
tu perds de l'espace du coffre.
Il est sous le coffre. Ouais. Donc ça veut dire que déjà, bon, tu rehausses l'espace au coffre et t'as moins de place en hauteur. Bon, c'est ok. Ça. Mais je me suis dit, ça veut dire qu'à l'avant, ils vont compacter au maximum le capot, ils vont gagner de l'espace à ce moment-là, ou alors ils vont nous faire un coffre aussi à l'espace
et
du
non.
capot. Eh ben non, ils nous ont mis la batterie avec un espèce de capot coulissant de merde là, et le reste, c'est juste uniquement pour encaisser les chocs, mais il n'y a rien pour les occupants.
T'as aussi les emplacements de liquide X
oui,
ou Y,
la
parce
place,
que au final, accéder au moteur de Twingo 3, même pour un garagiste, c'est chiant en fait.
Oui. C'est... Bah oui, parce que t'es obligé de dévisser les trucs ouais. et soulever le tapis, accéder au moteur. Donc, d'une, c'est pas pratique. Et va acheter des surgelés. Tu vas voir qu'ils vont vite fondre si t'as roulé avec ta voiture. Parce que ça chauffe, hein, forcément.
Bah
donc,
après,
ça a tendance à remonter dans le coffre.
Tu les mets sur la banquette arrière.
Faut mettre sur la banquette arrière avec les enfants. Ah, froid, maman! Bah oui, mais dans le coffre, ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux, Gérard?
Par contre, ils ont fait un petit retour en arrière aussi, comme la Twingo 1. Ils sont repassés sur un essence.
Oui.
Essence, pas de diesel.
Ça, c'est le mode général, ouais.
Ils ont arrêté les trois portes, ils ont fait que la Twingo 3 n'existe qu'en 5 portes.
Ça aussi, c'est une mode générale. Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, on dit ouais, les Français n'aiment plus les trois portes, etc. Donc, on fait que des 5 portes, mais on veut faire des 5 portes qui sont comme. Qui ont le look des trois portes. Donc, mais ça passe pas, on le voit que c'est une 5 portes. Il y a la découpe, mais on met souvent les poignées, on le voit sur un bon nombre de voitures, on les encastre dans le
oui,
montant arrière pour
les faire cacher.
Faire style, c'est une 3 portes quoi.
Et c'est ça, sur la Twingo 3, ils ont piqué l'idée de la Clio 4, hein, grosso modo, avec une poignée cachée.
Ouais.
C'est bien, c'est pas bien, voilà, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'elle soit une propulsion arrière, tu braques un peu mieux.
Oui.
Alors tu vas me dire, est-ce que c'est vraiment utile de braquer mieux sur une petite bagnole?
Oui, en ville, ça peut être super pratique en fait, parce que c'est vrai qu'elle tourne dans un mouchoir de poche, la Twingo
déjà
3.
De base, oui.
Et t'es entre deux trottoirs, hop, tu fais ton petit tour et t'es reparti dans l'autre sens. Non, je pense que vraiment, ça c'est un avantage.
Oui, mais je veux dire, tu l'avais déjà un petit peu, le fait que tu sois une petite bagnole.
Ça tournait court.
Bah ouais.
On est d'accord.
C'est,
là, ça
c'est
tourne
pas mal.
Encore plus court que court.
Si, aussi en 2015, elle a gagné un titre, aussi très intéressant. Le titre de voiture la plus vendue de sa catégorie en France.
Ouais.
Avec 45 000 voitures vendues. Mmh. C'est plutôt pas mal.
Elle a toujours, enfin depuis la Twingo 1, parce que même, c'est vrai qu'on parlait de la Twingo 2 qui avait un peu moins bien marché, mais depuis la Twingo 1, elle a toujours été dans le top 10 des voitures françaises les plus vendues. Quoi.
Même si des fois il y a des trucs qui marchent pas trop, voilà, ou quoi que ce soit, ça reste quand même une voiture presque emblématique de la France, hein, on va dire.
D'ailleurs, tu parlais d'une voiture électrique, enfin d'une version électrique.
Ouais, vous entendez ce son. En 2020, ouais, ils ont proposé la Twingo 3 électrique.
Ouais. Qui coïncide avec un restylage, je crois, qu'il y a eu au même moment.
2019, ouais, ils ont fait un petit restylage. Alors, il n'y a pas grand chose qui a changé.
Non.
Enfin, moi, j'ai pas
ils ont mis une prise d'air à l'arrière.
Ouais,
en plus.
Voilà, c'est vrai. Je vois jamais les différences de toute façon.
Mais oui. Il y a quelques différences dans les optiques, etc. Mais c'est vrai que c'est léger pour le coup.
Et bon, je me demande sur la version électrique, encore. Combien de place t'as perdu parce qu'avec les batteries.
Ah bah avec les batteries en plus, ouais, il reste plus grand chose.
Ouh, oui,
ouais.
Voilà.
Et alors ce qui est drôle, c'est que là on se retrouve aujourd'hui avec. Elle est sortie en 2020 et t'as une vraie concurrence en fait entre la Twingo 3 électrique et la Dacia Spring qui fait partie du groupe Renault, hein, le même groupe, où il y a quand même genre 3-4 000 euros de différence entre les deux. Et la Spring est plus grande. Alors tu te dis t'as plus de confort sur la Twingo, etc. Ce qui est vrai, hein, mais t'as vraiment un choix à faire, tu vois, entre ces deux voitures et des fois qui est un peu cornélien, quoi. Bon, ça reste dans le même groupe, mais bon, ça, ils se tirent un petit peu la bourre alors que c'est les mêmes voitures. Enfin c'est les mêmes constructeurs, quoi.
D'ailleurs on a fait un essai de la Spring très sympathique, disponible sur notre chaîne YouTube.
Exactement.
Allez, petite promo sur YouTube. Voilà, pouf, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Twingo?
Et
moi
ben,
je sais.
Oui.
Nous pouvons inviter quelqu'un qui avait une Twingo.
Non, je voulais juste faire parce que c'est vrai que je pourrais faire des heures sur la Twingo 1, qui pour moi reste, et je pense que si vous avez une Twingo 1, vous êtes nombreux à penser la même chose, que c'est la vraie Twingo. Tu vois, la Twingo 1, ça définit ce qu'était la Twingo et ce qu'est la Twingo. Je vous ai dit, j'en ai eu deux. Ma première voiture était une Twingo. J'en rêvais depuis l'âge de 13 ans de cette voiture parce que je trouvais le concept un peu hyper novateur.
À 13 ans
À 13 ans, ouais, je voulais une Twingo. Et donc j'en ai une en première voiture, j'en ai eu une par la suite. Et j'ai incité aussi ma maman à acheter une Twingo. Et elle a succombé au charme de la Twingo. Brigitte, qu'on a normalement avec nous. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Je pourrais dire bonsoir maman.
Bah bonsoir maman. Alors la Twingo, tu l'as encore, hein, achetée en 2011 en tant que voiture principale. Ce sont les toutes dernières, toutes dernières de la première génération. Elle est 2007, hein, la tienne.
Oui. Ouais. C'est ça, oui.
Donc vraiment juste avant le remplacement par la Twingo 2. Alors au-delà du fait que je t'avais conseillé une Twingo et que je suis souvent de bons conseils, pourquoi une Twingo?
Pourquoi une Twingo? Bah parce que c'est une petite voiture en fait. J'avais pas besoin d'une grande voiture. Très modulable.
Ouais.
Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais voilà, effectivement, avec une consommation tout à fait raisonnable, qui se conduit bien, qui passe partout, qui se gare facilement.
Ouais.
Donc, et puis jolie, enfin moi je la trouvais sympa, quoi.
Mmh. Oui, parce que alors, toi c'est ta voiture principale, parce que ça coïncide à l'envol de tes enfants. Voilà. Donc, c'était avant, t'avais une voiture un peu plus familiale et c'est une berline compacte qu'on avait, et Nissan, c'est japonais,
tirer une Logan.
Et remplacée donc par une Twingo qui te suffisait pour tes activités aussi bien professionnelles que pour même partir en vacances et même dormir dedans. T'as testé.
Voilà, c'est ça, oui. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ça m'a servi aussi pour partir en vacances et dormir dedans.
Ouais.
Donc, avec un système de banquette qui se replie, de sièges qui se replient très facilement, plus grâce à mon fils bricolo, un système de coussins qui faisait que c'était très confortable avec des rideaux et tout. Hein.
Mini camping-car qui peut passer partout, et notamment sur les barrières, tu sais, où c'est limité à 1,90 m de mètre, là, tu peux dormir en bord de mer.
Bah là, on dort où on veut, oui, effectivement. Ouais.
C'est ça,
ouais. Ah, ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu aimes moins sur la Twingo?
Sa couleur.
Ce que j'aime le moins.
Ouais.
Rien, je l'adore.
Alors, pour le coup, la couleur, elle est grise, hein, donc là, on était rentré dans des couleurs hyper classiques. Ça aurait été plus marrant d'avoir une Twingo de couleur autre, rose, mais.
Oui, bon, ouais, effectivement, mais bon, là, en plus, c'était, bon, bien sûr, une voiture d'occasion, donc, de toute façon, elle était grise, bon, mais ça passe partout, enfin, c'est une voiture, Donc dans les moins, qu'est-ce que je dirais, peut-être un petit peu bruyante si on roule longtemps.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai, c'est un de ses défauts, ouais, ça, la voiture.
Sur autoroute, mais...
elle est pas très bien isolée.
Il y a oui, des défauts qui ont été corrigés en cours de route, comme bah, par exemple les équipements, parce que la tienne, elle a la clim, elle a l'ABS, elle a, bon, les airbags, elle a tout ce qu'il faut pour une voiture des années 2000. Après, c'est vrai oui, que l'isolation phonique a été très peu renforcée, ce qui fait que même la conception même en fait de la Twingo, quand t'es à 80-90, ça va. Quand tu es sur l'autoroute, c'est bruyant. Ouais,
ouais, sur l'autoroute, oui. Bon.
Ouais. Et moi, il y a quelque chose aussi que je n'apprécie pas trop, c'est la direction. Alors moi, sur la mienne, la première que j'avais, c'était une direction qui n'était pas assistée. Donc bon, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut, c'était une direction assistée, voilà, que ça peut avoir. Mais après, sur, on avait parlé quand on avait parlé du Scénic, c'est les mêmes types de directions qui sont des directions électriques,
super souples,
ouais, qui sont donc
tu bouges
pas
à peine
en contact direct avec ouais, la colonne de direction, ce qui fait que c'est très léger à basse vitesse et ça peut se renforcer d'un coup sur route et t'as tendance à pas bien sentir la route. Par exemple, quand la voiture décroche, ce qui peut arriver quand t'es dans un rond-point, par exemple, que t'abordes un petit peu trop vite, etc., tu ne sens pas en fait que la direction devient légère et que la voiture va décrocher.
Ouais,
ça apparaît chiant, un ouais, peu de façon brutale, quoi.
D'accord.
Tu l'as ressenti, ça, Brigitte, ou pas?
Non. Non, enfin, non, pas spécialement.
Ça
mais
te gêne pas au quotidien.
Et parce qu'elle roulait pas comme Théo, en même temps. Avec Théo qui faisait des pointes.
On a peut-être pas la même conduite, oui.
Ouais, c'est pour ça, ouais.
C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Alors, donc toi, tu l'as eu en 2011, on est en 2022, donc ça fait 11 ans que tu l'as.
Oui. Tu corresponds à la moyenne.
Et 11 ans, bah, c'est vrai que ça correspond à la moyenne, mais ça fait 11 ans qu'elle est plus sur le marché, sachant que c'est une voiture qui remonte de conception à la fin des années 80, début des années 90. Est-ce que t'as le projet de changer pour une voiture plus moderne ou est-ce que tu comptes la garder jusqu'au bout, pourquoi pas?
Moi, je pense que je vais la garder.
Ouais.
Parce qu'en plus, bah oui, c'est bon, je roule beaucoup moins au quotidien. Mm. C'est une voiture fiable. Je vois pas par quoi la remplacer. Et je pense que peut-être même c'est une voiture qui va peut-être prendre de la valeur.
Ouais, c'est pourquoi possible.
Pas. Hein, elle a combien de kilomètres?
Comme les deux chevaux, les quatre.
Ouais, les... oui, oui.
Elle, pourquoi pas la Twingo A.
Ouais. Bah ouais. Ouais. Ils en parlent, hein, c'est-à-dire dans les. Alors, c'est pas encore réel sur le marché de l'occasion.
Non,
on n'est pas encore passé dans
bon
les collecteurs.
Prix, hein, ouais.
Ça va, encore, on est sur le marché de l'occasion, on va dire, pour le moment. Mais tous les magazines Youngtimer et compagnie parlent de la Twingo comme, oui, un futur collector, une future Youngtimer. Ça, c'est évident et ça serait pas étonnant. En fait, là,
avec le nombre de Twingo qui existe, bah, je sais pas si.
Mais c'est,
pouvoir,
ça, c'est ça le truc, c'est que ça va le devenir, mais un petit peu comme,
le nombre, en fait,
comme la 4L ou la 2 chevaux, ça va mettre un petit peu plus de temps.
Bah
parce
ouais,
qu'il va falloir que le nombre de Twingo encore en circulation diminue, parce que c'est un petit peu le levier de tout ça, c'est que ça s'est tellement bien vendu qu'il y en a encore trop pour que ça devienne un collector. Ouais.
Mais du coup, oui, j'avais une question, elle est à combien de kilomètres ta Twingo, Brigitte? Bonne question.
Je sais plus trop, en fait.
600 000.
Non, pas beaucoup, je dirais 120, 130 000 kilomètres, à peu près.
Ouais.
Oui,
120 000, quelque chose comme ça, non?
Ouais, je pense que c'est à peu près ça, ouais. Elle est neuve, hein, la Twingo.
Ouais, ouais.
Non, et puis en plus, tu l'as eu, elle avait très peu de kilomètres, je crois, quelque chose comme 30 000 kilomètres, un truc comme ça. Donc, oui, tu l'as quasiment eu neuve et...
17 000, même,
17 000,
je crois.
Ah, 17 000, ouais, ouais.
Oui, oui.
Vraiment quasi neuve, ouais. Une anecdote, une aventure automobile que t'as, vécu en Twingo que t'as envie de nous raconter?
Crever un pneu.
Alors ça c'est fait à midi pour moi ça.
Ah, qu'est-ce que j'ai comme anecdote?
Je sais pas, ça peut être une aventure en vacances, un souvenir que t'as avec la Twingo ou qui t'a marqué ou qui est pas forcément directement lié avec la Twingo, hein, mais qui est un bon souvenir que t'as passé en compagnie de ta Twingo.
Bah bon souvenir, les bons souvenirs c'est oui bah dormir dedans.
Ouais, en vacances, hein, par exemple, c'est-à-dire en week-end ou en vacances, de dormir à l'intérieur.
En vacances, en week-end, je me rappelle par exemple quand j'étais allée au Puy du Fou, voilà, sortie du spectacle, après je reprends ma voiture et puis je dis, oh bah tiens, je vais aller dormir à La Rochelle, donc j'ai filé, je suis arrivée sur le parking, bon il faisait nuit bien sûr, parce que c'était après le spectacle, je suis arrivée, j'ai baissé mon siège, mis mes petits coussins, mes petits rideaux et voilà, hop, ça y était. Ouais,
c'est ça que j'aime beaucoup dans la voiture camping-car, dans ce concept-là, c'est que ta possibilité, alors c'est évidemment si tu veux t'arrêter dans un camping, etc., mais sinon tu t'arrêtes à peu près où tu veux, Il y a des limitations des fois en bord de mer où vraiment ils interdisent.
En bord de mer, oui.
Mais
oui.
Bon, c'est vrai qu'une petite Twingo, ça passe pour une voiture, quoi. Ça passe pas pour un camping-car. Ou,
ouais. Donc personne te dira, ouais, vous dégagez là.
On est tranquille. Ouais. Et c'est vrai que c'est appréciable. Surtout qu'en plus, c'est vrai que la tienne, j'avais fait des petits aménagements pour renforcer le confort de. le confort, évidemment, du matelas, par exemple. Ouais. Mm. Ok. Mm. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Brigitte, d'avoir réagi.
Oui, aussi,
sur...
une autre anecdote, ouais. Aussi, dormir au bord de la mer et puis me réveiller à côté d'un camping-car et que les gens viennent me voir en me disant, oh, enfin, en pensant que j'habitais dans cette voiture.
Ah,
quoi.
Carrément,
ouais. Non, c'est ouais. Pour le plaisir, c'est les vacances.
Ouais, bah, bien sûr. Oui, ouais. Parce qu'à habiter, c'est peut-être un peu petit. Après, voilà. Mais c'est vrai que déjà, rien que de comparer, moi, ça m'est arrivé, pareil, de partir en vacances et de dormir dedans et tout, et d'être à côté d'un camping-car qui fait genre 8 mètres de long. Et toi, t'as toi une de 3m43, tu te sens tout petit, ouais. Et pourtant, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut.
T'as pas le minibar.
Non, mais j'avais même la douche dans la Twingo.
Ouais,
comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est petit extérieur, mais grand à l'intérieur. Hein.
C'est vrai.
C'est l'avantage de cette voiture, où on peut transporter aussi, ça permettait aussi de transporter des choses en baissant les sièges, en faisant...
C'est une bonne voiture de déménagement aussi. J'ai fait mes premiers déménagements dans une Twingo et j'ai même remarqué un...
Ah mais attends, t'es pas matérialiste.
Non, alors, bah, c'était ma chambre d'étudiant. Ouais, j'avais pas non plus une maison complète. Mais ouais, j'ai fait mon déménagement et j'étais chercher un canapé clic-clac 3 places chez Ikea que j'ai ramené dans la Twingo.
Ouais, quand même.
Il dépassait légèrement, je vous avoue, mais il est rentré.
Coffre ouvert, ça passe.
Coffre ouvert, ça passe, ouais, exactement. J'ai fait 30 km comme ça. Voilà. Merci d'avoir les chaussées. Et merci Brigitte d'avoir réagi.
Merci à vous, bonne continuation.
Et bah bonne continuation en Twingo. Ah ouais. Continuez de rouler grenouille.
Auto, moto, c'est Starter sur Indestar.
Et ça se passe sur Indestar.fr, sur Twitch aussi également en direct. Vous pouvez nous voir en vidéo en cliquant sur le petit lien pour suivre cette aventure automobile du lundi soir. Après avoir parlé des trois roues, après avoir parlé de la Twingo, mais c'est vrai qu'on a oublié la cote de la Twingo. Si on veut une Twingo aujourd'hui, t'es dit, ça coûte combien ?
Il y en a tellement en même temps. Bah oui, par exemple, la Twingo, une de base en 93.
La toute première, ouais. Est-ce que c'est collector ?
Non.
Pas encore, oui, non. C'est ce qu'on disait, c'est pas encore dans le statut collector.
Bah ouais, c'est ni collector,
c'est un investissement
ni cher.
Pour l'avenir.
Alors oui, pour l'avenir, parce que tout de suite, dans les médias, non. Mais ouais, ça coûte vraiment pas cher, en vrai, une Twingo 1. D'occasion, avec moins de 100 000 ou 100 000 à peu près,
ouais.
T'en trouves entre 2 000 et 4 000.
Ouais, ça va, ça reste très très
c'est
raisonnable.
Ouais, voilà. Et après, je me suis intéressé à la Twingo 2 RS, la version la plus sportive.
Faites-vous plaisir.
Voilà, pareil, franchement, c'est pas cher non plus hein, pour le prix. 8000 euros
8000
en moyenne.
Ouais.
Après,
c'est pas une réelle sportive cette voiture-là, mais c'est.
Non, mais
déjà,
bon.
Tu peux largement te faire plaisir avec la Twingo 2 RS. Et oui, c'est une bonne petite voiture rapide et vive.
Tu dois avoir l'impression d'être dans un kart en fait. C'est ça qui est.
Un peu, t'as un peu cet esprit-là. Non, c'est vrai, c'est sympa à conduire. La Twingo 2 RS, à mon avis, deviendra aussi un collector.
C'est vrai.
Autant les Twingo 2, j'y crois pas, globalement. Mais la Twingo 2 RS, par sa rareté et par le fait que ça soit une voiture qui soit bien faite, et par Renault Sport quand même, le département Renault Sport. Donc c'est.
Parce que tu es en train de me dire qu'il y a d'autres départements de chez Renault qui s'amusent à faire des versions sportives sans Renault Sport.
Bah disons que t'as des versions, on va dire, pseudo sportives, comme ce qu'ils font aujourd'hui avec les versions GT ou GT Line ou je sais pas trop quoi. C'est en gros t'as un look sportif, tu vois, c'est comme la Twingo Tecron, mais le moteur c'est un moteur de base.
C'est comme un SUV, c'est un look 4x4.
Ouais,
c'est
voilà
tout.
Exactement. La Twingo 2 RS c'est une vraie petite voiture un peu sportive, donc je pense que ça deviendra collector.
Bah écoute.
À voir dans les prochaines années, l'avenir nous le dira, comme on dit dans le jargon professionnel. On a des brefs pour vous. Non, pas des brefs, une insolite. Une insolite. Un mec qui a failli se prendre. Comment c'est quoi d'ailleurs ?
Un mur.
Oh, je vais vous le dire, mais il a été sauvé par un bol de nouilles.
Comment tu peux être sauvé ?
Comment
bol de
c'est possible ? Alors,
en sachant que c'est
comment
bagnole,
ça s'est passé ? Ça a été. C'était une scène qui a été filmée, hein, c'était en octobre à Taïwan. Le mec décide d'aller chercher un bol de nouilles dans un magasin à côté de la route où il était garé. Donc il sort de la voiture, il commence à aller chercher son bol de nouilles, il commence à déguster. Et là, il y a un gros camion qui transporte une chenille d'engin de chantier qui arrive à la hauteur de sa voiture. Et à ce moment-là, ça se détache, tu vois, et ça se déverse carrément 10 tonnes de chenilles sur la voiture du mec. Donc ça veut dire qu'ici, on avait été un petit peu plus tard, le mec était reparti dans sa voiture, ou un peu plus tôt d'ailleurs, il se serait pris une voiture, et croyez-moi, vu la photo, je peux pas vous la
c'est
montrer,
devenu une crêpe.
Ah, c'est devenu une crêpe, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de bonhomme à mon avis. Hein. Comme là, il n'y a plus de voiture, ouais, c'est vrai que c'est une chenille quand on regarde
et
bien.
Fun fact, c'était une Twingo. Non, je...
non c'est, ça avait l'air d'être une voiture avec 4 portes. Mais c'est bon, tout ce que je peux vous dire sur cette voiture, à mon avis une voiture made in Taïwan hein, pour le coup.
Difficilement reconnaissable.
C'est peut-être parce qu'elle est made in Taïwan. Non, je suis méchant. Voilà pour l'insolite du jour. Donc allez chercher des nouilles, ça peut vous sauver la vie. C'est ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Ouais. On a un sondage pour vous, le sondage de la semaine qu'on va poster d'ici quelques minutes sur les réseaux sociaux. Vous irez donc en story sur la page Indestar Radio sur Instagram ou alors Indestar sur Facebook. Vous devez faire un choix d'une voiture. Allez, vous avez le choix. Est-ce que vous prenez la plus jolie ou la plus pratique ? C'est Cornélien, comme ça. Hein. Alors, et ben c'est la question qu'on vous pose. On va voir si vous êtes plutôt design mode et compagnie, ou alors choix raisonnable et je prends celle qui pourra stocker mes enfants.
Par on peut pas faire un 75-25.
Ah ben je sais pas. Après c'est vous qui décidez.
Ah, je vais faire un 75-25.
Non, là t'as pas le droit. C'est toi la plus belle. Toi t'as pris la plus belle. On est d'accord.
Oui, moi je choisis la beauté.
Bah oui, c'est évident.
Mais elle est. Ah non, elle est pas pratique. Non, elle est,
elle
juste
est grande, mais elle est pas pratique.
Elle est juste jolie.
Elle est juste jolie, mais c'est déjà ce qu'il faut retenir. Non, mais ça peut être un choix uniquement.
Pour le côté pratique, je prends le C4 de ma copine, mais voilà. Ah bah non. Non, c'est non.
Oh,
c'est
un petit
pas
peu
pratique.
Quand même. Oh, si. Ouais, C4, ouais, ça va.
Son coffre, je mets moins de choses que dans le mien, alors que le mien ne se plie même
mais
pas.
Il est plus modulable le sien.
Oui. Mais
ça dépend ce que tu veux faire rentrer dans le coffre.
C'est vrai, je mets même pas de machine à laver, alors c'est nul à chier.
En même temps, c'est pas souvent qu'on a la possibilité de stocker une machine à laver dans sa voiture.
Je mettais ça dans une Laguna.
Tu te promenais régulièrement avec ta machine à laver.
Je pouvais mettre deux machines à laver. D'accord. Et un sèche-linge.
C'est le mec qui fait un pressing quoi.
Ouais,
c'est... D'accord, une laverie. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.